Mais lui devint invisible et disparut de devant eux. Et ils dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ? Si nous pouvions donner un titre à ce passage entre ce verset 13 jusqu'au verset 32, nous pourrions l'appeler la déception et le remède à la déception. Nous avons chanté au bonheur inexprimable de t'avoir pour son berger. Tu veux de notre faiblesse, de tous nos maux t'enquérir. Quel amour tu veux sans cesse nous pardonner et nous guérir. Nous voyons deux disciples triste et déçu, qui s'éloignait de Jérusalem. Quel était le motif de leur déception ? Eh bien, ils attendaient Jésus-Christ comme celui qui doit délivrer Israël. Ils pensaient que, dans leur imagination, que Israël était le centre des pensées de Dieu et que le Messie qu'ils avaient connu et approché aller les délivrer immédiatement du joug romain, être délivrés et connaître cette domination que plus tard viendrait sur cette terre Christ comme le roi établi sur la terre. Et pouvons comprendre que des Juifs qui attendaient donc le Messie pour que cette nation soit délivrée, soient déçus. Et dans les premiers versets jusqu'au verset 12 du premier verset, nous voyons un petit peu quelle était l'atmosphère chez les disciples. Nous voyons que ils n'étaient pas portés à croire le témoignage de ceux qui étaient allés au sépulcre, qui n'avaient pas trouvé le corps du Seigneur, et ne croyaient pas le témoignage des anges. Et il nous est dit qu'ils ne crurent pas, et que les témoignages qu'ils avaient entendus, eh bien, à leurs yeux, étaient comme des contes. Aux gens sans intelligence et lents à croire. Est-ce que nous ne connaissons pas ces mêmes sentiments ? Ne sommes-nous pas aussi des gens sans intelligence et lents à croire ce que nous dit la parole de Dieu ? et pouvons comprendre l'état de ses disciples. Ils avaient perdu leur Messie. Ils l'avaient connu auparavant. Et qu'était-il devenu? Et nous voyons donc ces deux disciples déçus, découragés, qui s'éloignent de Jérusalem. Ils avaient donc espéré l'avènement du Messie d'Israël, l'émancipation du joug romain, peut-être la renaissance de la nation sous la domination du fils de David, de Christ. Et cette vision s'était brusquement dissipée devant eux. Et on peut comprendre leur déception. Ils attendaient la délivrance d'Israël. Et puis, ils s'en vont déçus. Et ils s'éloignent de Jérusalem, qui était le centre spirituel. Nous pouvons connaître nous aussi des déceptions. Nous pouvons, en particulier quand on est de jeunes croyants, on peut se rendre compte que le péché en nous est toujours actif et on peut avoir aussi des désillusions. Quant au triomphe du christianisme dans ce monde, on espère et on espérait peut-être que le christianisme gagnerait de plus en plus dans ce monde, et puis nous voyons le rejet de Christ, le rejet de plus en plus du christianisme et le commencement de l'apostasie chrétienne. Quel sujet peut-être de déception. On peut être déçu aussi d'un point de vue ecclésiastique. Quand nous voyons la division de la chrétienté, quelle déception! Quand on voit l'état de nos assemblées, qui peut dire qu'il y a aujourd'hui des assemblées fidèles? Qui peut le dire? Ce sont des sujets de déception. Nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui des sujets de déception. Les deux disciples d'Emmaüs, qui s'éloignaient de Jérusalem, aussi avaient un grand sujet de déception. Et nous allons voir, si le Seigneur le permet, comment le Seigneur les prend en charge. Comment il va transformer leur déception en joie. Parce que le sujet de Luc, dans ce chapitre 24, ce sont au début des croyants, des disciples déçus, découragés, qui s'éloignent, et à la fin, ils peuvent goûter avec le Seigneur la joie ensemble autour de lui. Le cheminement, c'est toujours d'abord la déception, après c'est le découragement, après c'est l'éloignement, Et après, c'est la perte de contact personnel avec Jésus-Christ. Si nous lisons les Écritures, ceux qui se sont éloignés, c'est ce qui peut nous arriver, qui nous est arrivé peut-être, c'est cet éloignement. Et la fin de l'éloignement, c'est la perte de contact personnel avec Jésus-Christ. Si nous perdons la joie de la communion avec le Seigneur, eh bien, nous perdons ce contact et nous sommes malheureux. Nous nous éloignons de plus en plus. Et alors, ce qui est encourageant au verset 15, c'est que nous voyons, alors que ces deux disciples, Cléopas et son compagnon, on a dit quelquefois que c'était son épouse, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient deux, et ils s'entretenaient, raisonnaient ensemble, et nous voyons Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Nous avons chanté que le bon berger s'occupe de chacune de nos âmes, et dans ce passage, nous voyons donc que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. C'était quelque chose de nouveau. Avant, les disciples avaient pu suivre le Seigneur Jésus, avaient pu l'entourer, lui parler, lui poser des questions, l'écouter, se reposer auprès de lui. Mais nous voyons ici quelque chose de nouveau qui ne nous est pas dit jusque-là dans les évangiles, c'est que Jésus-Christ se met à marcher avec eux. Et il veut guérir, il veut donner le remède à la déception de ses disciples. Et il se met à marcher avec eux, et nous comprenons que c'est après sa mort et après sa résurrection. Et en vertu de l'œuvre de la croix, nous voyons que ces deux disciples lui sont, pour ainsi dire, parfaitement agréables, et il vient s'associer avec eux et à marcher avec eux. Il s'approche d'eux. C'est-à-dire, au fond, le Seigneur, il nous connaît, nom par nom, comme nous l'avons chanté, mais il s'occupe aussi de nous. Il ne nous laisse pas, connaissons bien ces expressions, et il ne nous abandonne pas. Et nous voyons ici que malgré cette déception et ce découragement et cet éloignement, eh bien, Jésus lui-même s'approche et se met à marcher avec eux. Et nous voyons donc que ces deux disciples s'éloignaient et quel va être le remède à leur déception. Et je voudrais d'abord souligner que ces deux disciples, eh bien, ils attendaient la délivrance d'Israël. Au fond, ils connaissaient sans doute les Écritures, l'Ancien Testament, Et nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait eu beaucoup de prophéties concernant le Messie. Et dans ces prophéties, bien sûr, il était parlé de la délivrance future d'Israël, de l'avenir d'Israël. Mais dans les prophéties, il est parlé aussi du rejet de Christ, que le Messie allait être rejeté et qu'il allait passer par des souffrances, comme il nous en est parlé dans les psaumes. Et le grand sujet de l'Écriture, ce n'est pas Israël, la délivrance d'Israël, mais le centre des Écritures, c'est Christ lui-même. Et nous voyons comment le Seigneur va s'occuper de ces âmes qui s'étaient éloignées. Nous allons relire au verset 25. Et il leur dit aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Pour ainsi dire, le remède à leur déception, eh bien, il est composé de trois ingrédients. Et au fond, c'est chercher dans les Écritures toutes les choses que les prophètes ont dites. C'est-à-dire, nous avons une tendance à avoir des passages de l'Écriture favoris et sur lesquels nous aimons à revenir. Et il y a des passages de l'Écriture qu'on aime moins, parce que peut-être qu'ils nous remettent en question, et nous avons tendance peut-être à les repousser, à les négliger. Et le Seigneur dit, et il leur dit aux gens sans intelligence et lents de cœur, à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. C'est-à-dire, au fond, toutes les Écritures, depuis le début jusqu'à la fin, nous parlent de Christ. Il peut y avoir des choses qui nous sont moins agréables. Et nous avons beaucoup parlé du pardon de nos péchés, nous avons beaucoup parlé de notre délivrance, de la rémission de nos péchés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sujets sur la délivrance du péché, sur l'affranchissement, la place de Christ dans notre vie, la place de Christ dans l'Assemblée. Il y a des choses qu'on aime peut-être moins aborder, mais qui font partie aussi de toutes les Écritures. Et le grand danger, toujours, en ce qui nous concerne, c'est de voir une partie des choses et ne pas regarder une autre partie des choses. Et mon frère ou ma sœur fera le contraire, s'arrêtera volontiers sur une partie que je ne regarderai peut-être moins et s'intéressera peut-être à une autre partie que moi je ne regarderai sans doute moins. Et nous voyons que le Seigneur insiste sur le fait de regarder toutes les choses que les prophètes ont dites. C'est-à-dire éviter le favoritisme dans la lecture de l'Écriture, mais Le grand danger, c'est ignorer une partie des Écritures parce que cela nous convient. Eh bien, cela va tendre peut-être aussi à notre déception. Et nous pouvons aussi nous éloigner parce que est tombé dans la partialité dans l'interprétation des Écritures en ne regardant toujours que du même côté. Le deuxième ingrédient pour guérir de la déception, il faut regarder dans les Écritures, à la fin du verset 27, les choses qui le regardent. C'est Christ devant les yeux de nos âmes qui peut nous guérir, qui peut guérir de nos blessures, qui peut guérir de nos déceptions. Et Christ est le centre et le thème de toute l'Écriture, les choses qui le regardent. Ici, ce n'était pas Israël, hein, celui qui doit délivrer Israël. Au fond, le Seigneur leur dit, aux deux disciples qui s'éloignaient, « Non, non, c'est regarder toutes les choses qui me regardent, qui le regardent. » Et c'est Christ qui est le centre glorieux de tous les desseins de Dieu. Au fond, ce n'est pas Israël, mais c'est Christ. Le grand sujet pour guérir de l'amertume, du découragement, des déceptions, c'est regarder à Christ. Le troisième point, c'est qu'ils vont reconnaître Christ au moment de la fraction du pain. Verset 30, « Il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit, et l'ayant rompu, il le leur distribua, et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, mais lui devint invisible et disparut de devant eux. » Ce qui ne veut pas dire qu'il est parti, mais ça veut dire qu'il était présent, mais invisible. Il faut faire bien attention parce qu'il ne nous est jamais dit que le Seigneur il est parti là. Mais il devient l'objet de la foi de ces deux croyants. Et nous voyons qu'à ce moment-là, la déception est changée en joie. La guérison de nos déceptions, de nos découragements, de nos éloignements, c'est que Christ soit le seul objet de nos pensées et de notre cœur. Est-ce que Christ est la portion satisfaisante de nos âmes? Est-ce que nous avons à cœur sa gloire dans l'assemblée, ses intérêts dans ma vie, mais ses intérêts aussi dans l'assemblée? Et par-dessus tout, est-ce que le désir de nos cœurs, c'est de le connaître toujours plus? Est-ce que le connaître, c'est la véritable occupation de nos cœurs? Nous pouvons sans doute traverser des moments difficiles, tous, mais avec Christ, à nos côtés, bien les moments les plus pénibles peuvent être traversés avec courage et avec joie. Cherchez Christ dans les Écritures. N'ayons pas une lecture incomplète de notre Bible. En croire une partie, avoir cherché des choses qui nous sont agréables et évidentes, faciles à comprendre. Mais si nous mettons de côté une partie des Écritures parce que nous ne les aimons pas, eh bien, le danger, c'est d'être gagné par la déception, d'être gagné par le découragement, et que nous soyons gardés dans la lecture de notre Bible, d'avoir des choses qui nous sont uniquement agréables, mais cherchons toujours toutes les choses qui le concernent à lui, lui qui a souffert ces choses et qui est entré dans sa gloire. Lisons tout ce qui est dit de lui dans tous les prophètes. Cherchons dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Tel est le moyen, le remède qui est donné par Dieu pour guérir de nos déceptions et de nos découragements.
Pour Seigneur veut toujours nous encourager dans le chemin. Le chapitre 24 est un beau chapitre de l'Évangile selon Luc. Et nous voyons que dans ce chapitre, le Seigneur se présente lui-même. C'est lui qui est le centre de toute la parole de Dieu. Et nous voyons alors ici sept choses qui sont ouvertes dans le Luc 24. La première chose ouverte, c'est le cercueil, le tombeau. Il est ouvert. Et au début du chapitre 24, le Seigneur est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, dans le cercueil, il est ressuscité. Et puis, à partir du verset 13, nous voyons que le Seigneur se présente à ses deux disciples d'Emmaüs qui se sont égarés. Ça allait dans le sens inverse. Mais le Seigneur marchait avec eux. Il marchait avec eux et nous voyons, au verset 32, ils demandaient, ils allaient plus loin dans le chemin et il leur disait, demeure avec nous. Et le Seigneur, il allait passer, mais ils lui dirent, demeure avec nous. Et que fait-il, que fait le Seigneur? Il leur ouvrit alors les Écritures. Et d'abord, ils ont reconnu le Seigneur quand il fait le pain, quand il rompait le pain, il distribuait, le Seigneur a béni le pain, et il leur donna, il leur distribua, c'est par la scène ici, hein. Et alors, leurs yeux furent ouverts, déjà leurs yeux furent ouverts quand ils reconnurent le Seigneur. Dans la parole, nous voyons que le Seigneur, et tout ce qu'il est pour son Dieu et pour notre Dieu et notre Père, et ce qu'il est pour nous dans le chemin. Et il leur ouvrit, ensuite il leur ouvrit les Écritures. Et plus loin, je ne sais plus le verset, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre la parole de Dieu. Il ouvrit l'intelligence pour entendre la parole de Dieu. C'est par l'intelligence que Dieu nous a donné, que nous recevons la parole de Dieu, que nous l'entendons, la parole de Dieu, et que nous la recevons. Et nous voyons un peu plus loin ce qui était ouvert. C'est le ciel, les mains du Seigneur étaient ouvertes. À partir du verset 50, les mains du Seigneur, le ciel était ouvert. Les mains du Seigneur étaient ouvertes pour bénir. Et nous voyons ensuite que ce qui était ouvert, c'était la bouche des disciples. Leur bouche était ouverte, ils rendaient louange à Dieu. Voilà. Est-ce que nos cœurs sont ouverts toujours pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir le Seigneur Jésus lui-même, pour ainsi qu'il se présente à nous à chaque pas, à chaque fois que nous lisons les Écritures. Comme disait un frère, si nous lisons la parole de Dieu et nous ne voyons pas le Seigneur, nous n'avons pas compris. Mais le Seigneur est dans la parole de Dieu. Il nous ouvre chaque fois lorsque nous lisons les Écritures. Il se présente lui-même à nous, à nos cœurs. Et nous pouvons que nous prosterner devant tout l'amour de notre Seigneur Jésus, qui veut que nous le connaissions toujours mieux, davantage, désirer voir Jésus, hein, comme Jean 12, les Grecs voulaient désirer voir Jésus. Et le désir de notre âme, et après son nom, et après son souvenir, que le Seigneur nous encourage toujours, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous le voyons, lui et lui seul.
On est rechanté du 49. 49.